m'étonne avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre sur pierre de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
À 7 ans et demi, déjà, j'arborais mon adorable bouille de gentille petite fille. Dans la file d'attente de la boulangerie, une dame se retourne et sans même se présenter me demande ce que je veux faire plus tard. J'étais surprise car j'en avais jamais parlé avec mes parents. En effet, c'est le genre de question qu'on posait plutôt à mon frère avant même que lui ne sache faire ses lacets. Prise de cours et me précipitant avant que ma mère ne réponde à ma place, je réponds en souriant « médecin le matin, coiffeuse l'après-midi et écrivaine la nuit ». La dame a évidemment trouvé ça trop mignon, ma mère m'a expliqué que c'est impossible de faire les trois, et les 20 années qui ont suivi depuis la question est restée une source d'angoisse et d'ambition impossible. Franchement, si ça avait été possible, j'aurais répondu écrivaine seulement. Mais par un espèce d'instinct de l'enfance qui sait que les adultes vont vous rire au nez, j'ai préféré garnir les lignes de mon futur CV et en rajouter. Surévaluer mon ambition pour ne pas avoir à l'assumer au risque de la voir être fragilisée ou détruite par les commentaires des autres. Et les lignes de CV, ma maman, elle s'y connaît. Elle est conseillère à l'emploi. Une chance, vous me direz. Moi qui n'ai jamais manqué de rien et surtout pas de job d'été et de recommandations sur les meilleurs BTS pour trouver un CDI. Une conseillère à l'emploi qui bâtit sa vie sur la notion de travail et de CDI et pour qui toutes les autres voies sont des décisions aussi dangereuses que la randonnée sur la crête d'un volcan en éruption. Alors que les sociologues diagnostiquent une génération qui n'accepte plus n'importe quoi au travail, que le télétravail et l'ubérisation deviennent les nouvelles règles sur le marché du travail, alors que nous sommes tous connectés à des moyens de déplacement, à des médiums qui nous permettent d'acquérir de plus en plus de savoirs et de compétences, alors que nous sommes tous toujours plus diplômés, qu'attendons-nous maintenant de notre travail et quel rapport avec nos études ?
Voilà, j'ai eu le concours. C'est mon premier jour de boulot. J'ai retrouvé le mal de ventre que je n'avais pas ressenti depuis le lycée. Les rentrées de classe ou les interros. Ce putain de mal de ventre. Je pensais que c'était fini.
C'est ici. Le 2038. Voilà, le bureau.
Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance.
Oui, ça c'est vrai.
Hein ? C'est vrai, on rigole bien tout de même, monsieur Bernard. Hein ?
Ce putain de mal de ventre. Le premier travail de Xavier dans la bureaucratie nous évoque nos premières nuits blanches la veille du premier jour de travail. Comme le héros du film de Capliche, Maxime, tu as commencé par l'administration, mais toi, tu as choisi d'y rester. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, autour de cette table, on a aussi Flore. Toi, tu as trouvé le meilleur moyen de rester étudiante tout en travaillant, car tu prépares une thèse sur la critique dans l'art contemporain.
Oui, c'est ça, sur la critique d'art contemporain, et je te contredirai tout à l'heure sur le mode de présentation, mais je vais d'abord laisser le tour de table se poursuivre.
Salut, et Antonin est également au micro de Radio Campus Paris ce soir. Toi, tu as un parcours sans faute, du BTS à la signature d'un CDI avant même tes 20 ans, dans l'une des plus belles institutions de France, hein, disons-le. Antonin, tu serais la fierté de toutes les mamans stressées pour l'avenir de leurs enfants, salut.
Ah, à ce point-là.
Ah, je crois, ouais.
Ah oui,
ouais.
Non, ben, bonsoir.
Plutôt la mauvaise élève, tu es freelance. Tu t'y connais dans tous les secrets pour organiser ton emploi du temps sans stresser. Salut Anna.
Salut.
Avec nous également Alex, car quand tu n'es pas en train de produire cette émission, tu es encore en école de journalisme.
Oui.
C'est bien ça. Et cela même alors que tes études initiales portaient sur la biologie. On parlera aussi de reconversion. Salut Alex.
Salut.
Alors autour de cette table, on a entendu là son intro dans les poupées russes.
Auberge espagnole.
Dans l'auberge espagnole. Est-ce que vous avez des souvenirs remarquables d'un premier jour de travail avant même d'avoir fini vos études peut-être, ou tout simplement de la première image de ce que vous avez eu, de ce qu'était un travail?
Moi, j'ai commencé mon boulot, en fait, c'était en stage. Donc du coup, j'ai pas eu vraiment la différence entre stage et boulot après pendant 2 ans et demi.
Qu'est-ce que t'as retenu de ce qu'était le travail? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette première journée?
Bah, vu que c'était en stage, t'es quand même assez épaulé, t'es aidé, donc ça va. C'était plus pour les jobs d'été où tu vois vraiment, tout ce que ça comporte, le fait d'être payé et rémunéré pour faire quelque chose.
Et pour les premières expériences professionnelles, moi c'était quand j'étais encore étudiant. t'as une différence ou t'as l'impression d'être considéré comme un adulte. T'es plus infantilisé en tant qu'étudiante et même si t'es là qu'en tant que saisonnier, ton employeur, tes responsables te voient comme un adulte. Et si t'es en retard, tu te fais engueuler, tu t'assumes les conséquences, même sur ton salaire. T'es payé à la fin du mois et puis t'as une existence sociale qui est autre parce que t'es plus étudiante, t'es dans une entreprise, administration ou autre. Enfin, t'as un statut qui est différent de ce que tu connais avant. C'est un premier pas dans le monde adulte. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Alors, Flore, Anna, est-ce que vous aussi, vous avez ressenti une espèce de considération dès votre premier jour de travail ?
Bah, moi, en fait, j'ai jamais travaillé. Enfin, si on peut jamais travailler au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des salaires, évidemment, mais je n'ai jamais travaillé dans une entreprise avec un patron. J'ai fait des stages, beaucoup. J'ai bien ressenti ce que vous décrivez. Et puis, c'était des stages dans des institutions culturelles, donc où j'avais des missions extrêmement spécifiques, pas forcément valorisantes, pas forcément détestables non plus, mais c'était, voilà, j'avais pas mon poste. Je faisais de la recherche documentaire, je calais des invités, je faisais de la prod, enfin des trucs comme ça. Mais voilà, j'ai jamais eu de travail au sens de CDI, de CDD, de patron, de fiche de poste, de mission. Donc tout ça pour moi en fait pas un folklore, mais c'est un monde que je ne connais pas du tout en fait. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus.
Ouais, alors moi je reviens sur... le fait d'être pris comme un adulte tout d'un coup dans le monde du travail, je l'ai ressenti et en même temps c'était source d'angoisse pour moi parce que du coup j'ai toujours aujourd'hui encore l'impression de jouer un rôle où faut, et du coup ça me stresse et je suis vraiment pas à l'aise avec le rôle qu'on doit se donner au travail d'être toujours dynamique, actif et...
Antonin, est-ce que tu as réussi à être toi-même dès ton premier jour de travail ?
Ah non, on n'est pas soi-même quand on commence à travailler. On n'est pas du tout soi-même. D'ailleurs, à un moment donné, on s'en rend compte, on se dit, t'as, c'est flippant, j'ai vraiment... En fait, je me décompose quand j'arrive devant mon patron. Dès que j'arrive au travail, j'ai l'impression maintenant, je dois exécuter une tâche. Je suis... on pourrait très bien me remplacer, je suis remplaçable. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a au fond de nous-mêmes et toutes nos appréhensions, je dirais pas ça, mais... plus notre personnalité, en fait, on la met un peu de côté et on essaye de se faire au moule pour éviter des problèmes. C'est-à-dire, c'est comme ça que je ressens. J'étais très timide à la base. J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans pile. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé au boulot direct alors que j'avais à peine 18 ans. J'étais dans un bus pour aller au travail. Donc, c'était un travail saisonnier pour le coup. Je travaillais dans une cuisine, dans une colonie de vacances. On arrive, là, on est pareil. Ta collègue a beau avoir 36 ans, ton collègue a beau avoir 20 ans, j'en avais 18. On est tous pareils, c'est-à-dire qu'on arrive, on a des choses différentes à se raconter, certes, mais on est tous pareils. C'était très bizarre, très particulier, et je me rappellerai toujours de ça. En revanche, après, pour les autres premiers jours, ça n'a pas fait... vu que j'étais un peu prévenu, en fait, et c'était beaucoup plus simple. Mais encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment moi-même au travail ? C'est des choses...
Alors, cette question de la représentation, elle est... Elle a lieu au travail, mais elle a aussi lieu ce que notre travail représente aux gens à qui on répond à cette fameuse question « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Est-ce que vous avez... D'abord, qu'est-ce que vous répondez à cette question quand les gens vous demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alex ?
Moi, qu'est-ce que je faisais, du coup, avant dans la vie ? Vu que moi, je travaillais dans la biochimie, c'était très compliqué pour moi d'expliquer ce que je faisais, donc je disais que je travaillais dans la recherche. C'est tout.
Et maintenant ? Maintenant, au milieu d'une reconversion,
que je suis journaliste en fin de formation, pour expliquer que je suis quand même un peu plus vieille que la moyenne d'âge des jeunes journalistes. Voilà. Et ça, c'est plus compréhensible pour tout le monde.
Ça passe. Comment t'arrives à définir ton activité, Anna ?
C'est toujours hyper galère. Et puis, je sais jamais trop comment me présenter.
Ça demande de s'assumer,
Parce que... Mais dans tous les travaux que j'ai faits jusqu'ici, je sais jamais comment me présenter par rapport à ça. Puis en plus, du coup, je travaille à Radio France en tant qu'assistante d'édition. Et quand j'explique que je collecte des sons pour les mettre dans les journaux, souvent ça parle à personne et personne n'arrive à vraiment à se représenter. Et souvent ils passent à autre chose très vite parce qu'ils comprennent pas.
Moi, ça dépend beaucoup de qui me pose la question. J'ai tendance à vraiment adapter mon discours en fonction de qui me pose la question et en fonction aussi de la durée de la conversation, si j'ai envie que ça dure ou pas. C'est-à-dire si c'est, comme tu disais, la boulangère ou, je sais pas, un collègue des parents ou un dîner de famille, quelqu'un à qui t'as pas envie de parler, je vais essayer de dire quelque chose de rapide, genre « je suis prof ». genre on passe à autre chose et m'emmerde pas. Et si c'est quelqu'un dans une soirée ou avec qui j'ai plus envie de parler, je vais dire bah, je fais une thèse. Et pareil, le sujet de ma thèse, je vais le présenter de manière plus ou moins brève selon que je sens que la personne va faire « vas-y, tu me saoules, j'ai pas envie que tu me parles ». Ou si je sens que la personne va être réceptive et va dire « ah oui, trop intéressant » ou pas trop intéressant, mais juste « ah oui, d'accord ». Genre que ça l'intéresse en fait, donc j'ai tendance un peu à m'adapter en fonction de mon auditoire.
Il y a des manières plus sexy que les autres de présenter ton sujet de thèse ?
Bah, plus sexy ou en tout cas plus brève. C'est parce que je sens aussi parfois que certaines personnes demandent par politesse « Ah, tu fais une thèse, ah, et donc ta thèse elle est sur quoi ?» Mais tu sens que déjà leur regard est ailleurs, qu'ils cherchent le briquet dans le fond de la poche pour aller fumer. Tu sens qu'ils n'ont pas envie que tu leur détailles la neutralité axiologique et l'orientation épistémologique en fait. Donc voilà, en fonction du contexte, de si c'est un chercheur ou pas, de si c'est quelqu'un qui voit ce que c'est qu'un doctorat ou pas, en fonction aussi de si c'est quelqu'un à qui on a envie de parler. Ça dépend quoi. Donc je m'adapte.
Antonin, dans tous les contextes, tu peux parler de ton travail. C'est facile d'expliquer ce que tu fais.
C'est pas évident parce que quand on arrive et qu'on balance le titre initial du nom du poste, on dit je suis technicien supérieur de maintenance aux infrastructures de production. Les gens ils te font oui. Enfin tu fais quoi? Enfin non, mais c'est marrant, mais non, mais tu travailles dans quoi? Et du coup à chaque fois je suis obligé de développer et de dire voilà bah en fait je travaille dans telle structure, je fais telle chose, des choses qui parlent en fait. Je dois dire ah tu vois telle chose, bah je travaille dedans, tu vois telle chose, je travaille dedans. Donc c'est dans mon milieu ça va, on peut le faire, mais je pense que dans certains autres milieux bah c'est compliqué quand on touche pas le grand public, on va dire.
Je trouve ce que tu dis ça a un aspect, c'est juste le nom des métiers.
Oui,
c'est-à-dire
aussi,
qu'il
oui.
y a beaucoup de métiers le nom des métiers ne veut rien dire, c'est oui, la c'est tâche vrai. Quelque chose. Même quand on dit comptable, on voit qu'un comptable il touche des chiffres, mais je pense qu'on est, enfin que Maxime tu es un des rares ici à savoir peut-être ce que fait un comptable, mais c'est tout
non,
est abstrait.
Non, je suis pas comptable.
Non, mais je sais que tu n'es pas comptable. Je sais que tu n'es pas comptable, mais je pense que tu sais ce que fait un comptable.
Oui.
Maxime, pour lignes, resituer l'auditeur, ceux qui ont vu Friends, il fait le travail de Chandler.
Exactement.
Amis, ça c'est vrai.
Tous ses amis voient que c'est très important et pensent savoir ce qu'il fait, mais aucun de nous ne sait exactement ce que tu fais.
Mais c'est vrai, c'est exactement à chaque fois que, quand on pose la question, après j'ai pas mal changé, mais là. Donc je dis je travaille dans les ressources humaines. C'est parlant.
Ce qui
et puis
pas
après
tout à fait la définition de ton poste.
Non, mais enfin c'est en gros c'est ça. C'est les ressources humaines. Après généralement c'est un sujet suffisamment peu intéressant qui passionne peu les gens pour que ça suscite d'autres questions. Donc c'est bien. Voilà, quand je veux pas qu'il y ait d'autres questions après, je dis dans les ressources humaines.
Est-ce que vous avez toujours été à l'aise, enfin déjà est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui avec le fait de répondre à cette question? On a pour quelques-uns évoqué les petits pincements. Et est-ce que vous avez toujours été à l'aise quand on vous a posé cette question en soirée? Enfin, moi, je pense par exemple, j'ai pas fait cette émission pour rien. Je suis pile au moment où je passe de la fin des études à la recherche d'emploi. Et en ce moment, je suis pas du tout à l'aise avec cette question. Je l'évince, je n'y réponds pas. Et est-ce que vous, ça vous est arrivé d'être dans la situation où la réponse vous mettait trop mal à l'aise ou même vous préfériez ne pas répondre?
Oui. Oui, ça m'est arrivé. Il y a une époque où... ça n'a pas duré longtemps, mais je ne savais pas à quoi je servais. Vraiment, j'étais dans un poste où je savais pas à quoi je servais. Donc, quand on me posait la question, je ne savais pas quoi répondre.
Oui, en fait, peu importe la définition exacte du terme, c'est le sens que nous, on y met derrière qui fait qu'on se sent bien à y répondre, en fait.
Oui, exactement.
Je trouve que ça dépend aussi comment la question est posée. Pour moi, il y a deux questions différentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi ton boulot? Et je trouve que c'est deux questions très différentes en fait, parce qu'on peut dire par exemple qu'est-ce que tu fais dans la vie, je me cherche, je viens de finir mes études, je fais un job mais ça m'intéresse pas trop et je me demande ce que je pourrais faire à côté, ou je fais un boulot chiant et j'essaye de changer, enfin voilà. Par contre quand on demande c'est quoi ton boulot, là tout de suite la question elle est fermée, elle est, encore une fois c'est une vision un peu capitaliste du travail et de l'injonction à s'épanouir dans son travail, ce qui est quand même très loin d'être un acquis, je trouve. C'est quand même pas évident que c'est obligatoire de s'épanouir dans son travail, voire même que c'est obligatoire de travailler, parce que moi j'ai déjà parlé à des gens fortunés qui ne travaillent pas, qui sont rentiers et qui m'ont dit que leur entourage ne le supportait pas, qui peuvent pas dire moi je travaille pas, je suis riche, j'ai pas besoin de travailler. En soi oui, t'es riche, t'as pas besoin de travailler, pas de mal à ça en fait, mais c'est généralement assez mal reçu l'idée que mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu justifies ton existence dans la société?
Et on a simplifié le problème en le concentrant sur le travail et uniquement le travail. Vous, cette question, les filles, vous avez toujours été à l'aise avec ?
Non, mais surtout, justement, après les études, moi, j'ai eu une période sans emploi. Et là, c'était dur parce que ouais, je ne savais pas comment répondre à la question. Alors, je répondais souvent à côté où je parlais de choses qui m'intéressaient. J'essayais de trouver des parades, mais ce n'était pas souvent ce qui satisfaisait les gens.
Puis il y a un fantasme aussi de certains boulots. Genre, comme moi, je travaille dans la recherche scientifique, on me disait « Ah, ben, t'es chercheuse ?» Et je disais « Ben, non, en fait, parce que j'ai pas de thèse. J'étais ingénieure d'études, donc c'est le niveau où il y a un master. Et je me sentais pas de dire « Oui, oui, je suis chercheuse, hyper prestigieuse et tout. »
Et du coup, tu les déçois quand tu dis
un
non.
Petit peu. Et je leur dis « Non, non, en fait, non, c'est pas ça, mais c'est pas moins bien. » Et au final, je me suis rendu compte que dans la recherche, effectivement, c'était moins bien vu mon poste que celui de chercheur. Et c'était assez dur à encaisser, en fait.
En France, une des premières questions qu'on pose après comment tu t'appelles, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, sous-entendu, c'est quoi ton travail ? Parce que c'est quelque chose qui, actuellement, qui nous définit. On est défini par notre travail, ça veut dire notre position dans la société, au-delà même du simple salaire, ça veut dire qu'est-ce qu'on est, comment on existe, c'est quoi notre position quand on est au travail, hiérarchiquement, etc. Alors que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est vrai, comme tu disais, il y a un fantasme autour du travail, des travaux qui sont un peu prestigieux, qu'on peut dire... Quand quelqu'un dit « Ah bah, je suis médecin, ouais, tu sauves des vies bah, », non, je prescris des médicaments toute la journée. Ou alors, il y a plein de professions où finalement, la majorité des gens envoient des mails et répondent au téléphone.
Ouais, en bien ou en mal d'ailleurs. Journaliste maintenant, c'est l'inverse. On me dit « Ah, t'es journaliste okay. ».
On est passé de l'autre côté dans le journalisme ouais. avec la médiatisation, notamment des politiques qui critiquent beaucoup ça. Mais bon, c'est pas trop le sujet. À votre avis, pourquoi ça a pris... tant d'importance, pourquoi c'est la deuxième question qu'on pose ? Et vous, quand vous la posez, qu'est-ce que vous attendez d'éléments de réponse en face ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Bah justement, moi, quand je pose la question, j'attends plus qu'est-ce qui te passionne dans la vie, en fait ? Qu'est-ce qui occupe ton temps ? Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pour moi, c'est au sens littéral. Qu'est-ce que tu fais, en fait, de tes journées ? Et si la personne me répond, bah, je suis rentière et je l'éprouve toute la journée, bah... Ok, cool. Et si la personne me répond, je fais un job chiant que j'ai pas envie d'expliquer, je dis ok aussi. Enfin, il y a toutes les réponses en fait. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement qu'est-ce que tu fais de ta vie et pas justement comme tu le disais, Maxime, la question de la position sociale, qui je pense, comme j'ai justement un métier qui implique une profession sociale, une position sociale très ambiguë et extrêmement précaire, je pense que aussi la plupart des gens qui m'entourent ont tous une position sociale précaire, plus ou moins. Donc c'est aussi pour moi une réponse qui va aller de soi, genre dans la vie je suis précaire, sinon voilà, ce qui me passionne c'est ça, et du coup la précarité elle est presque induite dans la question la plupart du temps.
Oui. Non mais on se change de regard en mode qui parle. Bon alors en fait le problème, c'est quand on pose la question en soirée typiquement, voilà, bon on a quelques verres dans le nez donc c'est un peu compliqué de répondre à chaque fois, mais on nous pose cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour établir un sujet de conversation, parce que souvent quand on rencontre quelqu'un on n'a pas grand-chose à se dire, tu vois, parce que bah voilà, on va pas dire et toi aussi t'écoutes je sais pas. Ben non, en fait, on sait pas, donc on pose des questions. Les questions qui reviennent le plus, c'est du coup, tu fais quoi dans la vie ? Même avant le comment tu t'appelles, des fois, clairement, hein, les gens abordent comme ça. Ça permet après d'ouvrir un sujet de conversation sur le boulot. Donc en fait, en soi, on se retrouve à parler boulot, ce qui n'est pas forcément positif, parce que quand on part s'éclater, c'est pour un petit peu oublier ça. Mais du coup, ça permet aujourd'hui Voilà, c'est assez triste parce qu'on essaie de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de se rencontrer finalement ?
Puis, est-ce que ça ne nous rassure pas aussi sur les points communs qu'on a avec. Enfin, c'est ce que tu disais sur. Moi, je dis que je suis précaire, donc la personne en face peut évaluer où elle en est par rapport à ça, et ça nous permettrait de connaître les points communs qu'on a avec la personne en face.
Après, je ne vais pas le formuler, je ne vais pas dire je suis précaire. je ne vais pas le formuler comme ça, parce que dans le doute, on sait jamais si la personne en face
se fait un fantasme sur la vie de Thésard.
Oui, voilà, voilà, mais c'est juste que justement ce qui m'intéresse, c'est pas l'importance, c'est pas le salaire, c'est plus l'occupation vraiment et le l'épanouissement.
Alors justement, on revient sur la vie de Thésard tout de suite après une pause quand même.
Salut les copains et à l'année prochaine, allongé sur la pelouse, regarde le soleil. Ouais, en route pour la vie, pas par ici la sortie, l'école est finie. Salut les copains et à l'année prochaine. Allongé sur la pelouse, regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie.
Mais comment ça, il doit y avoir une erreur. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux pas passer en établissement supérieur. Laissez-moi une chance, fille, j'ai 7 photos annulées sous conseil de classe. Au mois de septembre, on recommence tous aux mêmes places. Rendez-vous compte, fini l'école, puis c'est les heures de colle, soyons rationnels. Les disparitions de cartables, les antisèches sous la table, les plans maraves et les cours de français passionnels. Les affectés des insectes infectent votre réfectoire et marqués d'une croix d'inceste la 11e lettre de votre répertoire. Sur les cordes d'un arbre centenaire que tous les élèves connaissent. Un chiffre, nos noms et une promesse. Nous n'oublierons jamais l'unique dortoir des filles, l'unique doctoresse, l'unique cours d'école et surtout les uniques camarades de notre unique jeunesse. Je passe au collège avec mes 6 collègues, tourne notre manège mais sans Charlie Oleg. J'irai au courant des façons et hall d'année en classe de musique, j'ai toujours eu des bémols. C'est fini le rap de récré, je crois son rap de rue, comme Jésus disait.
Voyez-moi travailler, ça me tue.
Alors, vive les vacances, oublie trimestre bulletin et infernale cadence. Je veux de la catin qui danse quand je juste dilate à l'idée de leur lèvre pulpeuse comme un cul de primate. Mais aussi sûr que mamie passera pas l'été, juré, craché, on sera tous là à la rentrée.
Salut les copains et à l'année prochaine, allongé sur la pelouse, regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie. Salut les copains et à l'année prochaine, allongé sur la pelouse, regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie.
L'école, c'est mes filles. Que demander de plus que le début des corps phares. Et dans cette ambiance de fin d'année bénie, le temps est venu de se dire celui de quitter ce pensionnat dans la prairie. À la très rare, de nouvelles aventures nous attendent en marge de nos vies scolaires respectives. On a tous rendez-vous avec l'inconnu. Sexe, drogue et hip-hop au snog sont les remparts. En mémoire de jadis, prêtons serment sur l'honneur que ce ne soit pas un adieu, mais qu'à ne revoir. Non, ce n'est pas un adieu, juste à ne revoir, ce n'est redoublé. Blancs se reverront à la très rang. T'as vu maintenant, je suis grand, je parle un arc au verlan.
J'ai un pass, le dernier samaritain, mais le premier de la classe. Avoir des poils, 10 ans et demi et déjà une petite moustache. Nouvelle démarche décalquée sur Aldo, la glace. Me parle les fesses de la maîtresse avant qu'on trace pour le CES. Fumer des fleurs et sécher le PS. Technologie, coin de coupe, manotoriverse. Jean, neige, trop de revers, au-dessus des converses. Ici c'est All Star Club des 7. Et je troque mon taton tans contre un 5 US. Où j'écrirai plein mon groupe de art que je connais même pas, comme sur ma collègue de Badjo et Oé. Une dernière boucle pour le goûter de fin d'année. Sors le docteur m'a bouffé, mettez le savane et fruité. On va se quitter mais on se retrouvera vite. Et je vous invite tous au quick, prendre une dernière frite.
Ouais. Douleur de notre ancienne, tellement de zéro pointeur. Non m'averti, on vaut de une fois 7. Mais un millier comme papy, mamie, je parle beaucoup au passé. Collectionneur d'images jaunies mais aussi de regrets. Je n'aurais pas dit à Corinne à quel point je l'aimais. En même temps je ne sais pas si c'est ça vont pousser. Il paraît qu'au collège les classes changent pour les matières. Cela va faire des escoufours, mais il va falloir s'y faire en pierre. Déjà dans le sac, mais ouais, le bisou d'âge. Ils apprendront comme leur maman que je vise toujours au visage. Grandir, c'est se rendre compte qu'on ne peut plus dire pouce. L'école est finie, on ne se reverra pas tous.
Qu'est-ce que tu vas faire après tes études? On ne se reverra pas tous. L'école est finie. Du Club des 7, c'est notre conseiller d'orientation préféré à 19h24 sur Radio Campus Paris.
Garçon, je baptise double et trois tripes.
Pour un pic en bière, c'est moitié-moitié?
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Nous parlons ce soir de ce passage dans lequel on nous pousse comme au bord d'une falaise entre 17 et 30 ans, l'insertion dans le monde professionnel. Alors j'ai pas eu le temps de reformuler ma question, Flore, donc je vais la poser telle qu'elle est écrite. On critique souvent les thésards. On en a l'image de gens qui ne savent pas couper les ponts avec leurs études. Comment tu réagis quand on te dit ça?
En fait, j'aimerais décrire ce qu'implique un doctorat pour arrêter de penser que ce ne sont que des études. En fait, le doctorat est une profession. Il faut savoir que certes, c'est un diplôme qu'on prépare. Alors, a priori, il se prépare en 3 ans. C'est-à-dire qu'une licence, c'est 3 ans, bac plus 3, un master, 2 ans, bac plus 5, un doctorat, 3 ans, bac plus 8. Mais que généralement, la moyenne, c'est plutôt 5 ans dans les sciences sociales, dans les sciences dures. Alex, tu pourras nous en parler. Généralement, c'est beaucoup plus court parce que la mission est beaucoup plus déterminée. Ça plutôt 3 ans
en biologie,
ouais, voilà.
3 ans dans les autres matières.
À ceci près que je pense l'obtention d'un poste est davantage garantie dans les sciences dures que dans les sciences sociales.
Oh non.
Non. Voilà. En tout cas, certes, c'est un diplôme, c'est-à-dire c'est des études au sens où c'est un diplôme, mais déjà on n'a pas de cours. Donc on ne suit pas de formation, outre quelques très rares formations à des outils méthodologiques ou à de l'anglais académique ou que sais-je. On n'a pas de cours. Donc déjà, c'est pour les études, on est quand même dans l'acquisition de compétences. En doctorat, on n'est pas là-dedans. En doctorat, on a un sujet. L'idée, c'est que ce sujet soit inédit, qu'on apporte quelque chose qui n'existe pas encore au monde de la recherche, que ce soit la recherche, encore une fois, en sciences sociales ou en sciences dures. Donc on travaille, et c'est un travail. Après, on a la chance ou pas d'avoir un contrat doctoral. Le contrat doctoral, c'est du salariat pendant 3 ans, et ce salariat implique généralement des obligations d'enseignement, des obligations administratives, etc. Il y a aussi une obligation, qu'on ait ce contrat ou pas, à publier dans des revues scientifiques pour valoriser sa recherche, à communiquer dans des colloques, à initier les jeunes doctorants à ce que c'est que ça, et puis évidemment l'enseignement. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais ça va ensemble. Et en faisant tout ça, en enseignant, en publiant dans des revues, en communiquant dans des colloques, en préparant sa propre thèse, en se demandant de quel angle on va aborder le problème, comment constituer un corpus, comment résoudre tel ou tel problème, telle ou telle équation, telle ou telle construction, comment accéder à son terrain, comment faire des entretiens, et bien tout ça ensemble, je pense qu'on peut appeler ça un travail.
Donc vous
que
êtes
ce soit salarié ou pas.
Une professionnelle du savoir universitaire.
Bah, exactement, et d'ailleurs on est un professionnel du savoir, que ce savoir soit universitaire ou pas. En fait on est juste à la fois dans l'acquisition du savoir, dans la formalisation de celui-ci, dans ce qui va être une thèse, donc on va défendre une position, une thèse c'est ça, c'est une position, et dans l'instruction, dans l'enseignement. Et tout ça ensemble, c'est vraiment pas une cure de tranquillité.
Et autour de cette table, est-ce que les études, c'était une cure de tranquillité? Est-ce que vous avez fait des études qui vous plaisaient? Est-ce que vous les regrettez? C'était bien?
Non, c'était pas bien.
Les études c'était de comptabilité, chiant. Maxime.
De droit. J'ai fait du droit.
C'est toujours la quoi.
Et j'ai commencé, j'ai arrêté parce que j'en avais marre, je voulais travailler.
Il y a beaucoup de gens qui arrêtent vite leurs études de droit. Est-ce qu'on prend le droit parce qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire?
Exactement.
C'est pour ça que t'avais choisi le droit.
Moi, c'est pour ça que j'avais choisi. Ouais. Je voulais pas du tout être avocat ou juge ou autre. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai pris droit. Ça m'a aidé ensuite pour passer les concours, mais je voulais arrêter très vite parce que j'en avais marre d'être infantilisé. Je voulais travailler. Je voulais me prendre en main. Je voulais être indépendant, et donc ça passait par le travail.
Et Antonin, t'as l'air de plutôt acquiescer.
Oui, je suis d'accord. Mais en fait, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très qui aiment bien, voilà, faire des études, aller
les
à la
études
fac,
longues, ça donne une certaine image des gens. Longues.
Oui, voilà, et qui aiment bien l'ambiance universitaire aussi, voilà. Moi, c'était pas du tout mon cas, et c'est-à-dire que depuis la primaire de la maternelle, du coup, jusqu'à la fin de mon cursus, je savais pertinemment ce que j'allais faire, et je me disais, ok, d'accord, bon, pour arriver à ça, faut faire ça, bon, ok, on y va. Et jusqu'à ce que je trouvais que c'était, on s'ennuyait quoi, en cours on s'ennuyait, mais profondément. Aujourd'hui je vais pas refaire un truc sur le système scolaire non plus, mais arriver en BTS, je me disais bon c'est long hein, bon quand est-ce que ça s'arrête? Et je me suis dit bon allez, je fais 2 ans de BTS, après je cherche du boulot. On me disait ah oui mais avec 2 ans bac plus 2, t'attends pas à avoir non plus la folie machin. Je dis bah oui mais il y en a qui sont en bac plus 8, ils sont même pas sûrs de trouver du travail derrière, enfin donc pour moi c'est
j'ai pas du tout à qui tu fais référence.
C'est non mais je fais référence à même pas à personne, j'ai des gens qui m'ont déjà, enfin même pas des gens, c'est sûr que c'est un constat personnel. Et je me suis dit bon allez, je fais 2 ans d'études et après ça je cherche du boulot, et je pendant ces 2 ans d'études j'en profite pour me construire un réseau pour trouver du boulot. Et donc je voulais vraiment me barrer rapidement parce que d'ailleurs le BTS c'était très dur, on faisait pas tranquille, c'est-à-dire j'avais pas une espèce de, je sortais pas tous les soirs quoique, et enfin voilà, on n'était pas dans le espèce de cliché de l'étudiant qui voilà, enfin
qui rue Mouffetard ou rue des Lombards,
qui rue Mouffetard rue de l'Ap quoi, tu vois c'est clairement ça, et c'était plus en fait vous êtes là, vous avez choisi BTS. Et bah vous allez voir ce que c'est quoi, donc vous allez bosser.
Oui, t'as quand même choisi une formation extrêmement synthétisée, condensée, et qui a un bon niveau derrière de compétences professionnelles.
Oui, parce qu'en fait on est plus dans vraiment de la, c'est plus pratique je dirais, enfin, en termes de d'enseignement, on est sur un enseignement beaucoup plus pratique que théorique, même s'il y a beaucoup de théorique, mais en soi c'est rattrapé par la pratique, et on peut s'en sortir grâce à la pratique.
Les filles, est-ce que, Anna et Alex, est-ce que vos études vous ont convenu, et est-ce que dans vos études vous avez trouvé les compétences qu'aujourd'hui vous utilisez dans votre travail?
Alors oui, moi je me reconnais dans les personnes qui ont bien aimé leurs études. Je suis complètement, enfin moi j'ai beaucoup aimé étudier, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé lire, donc je me reconnais là-dedans. Et après, j'ai pas... c'était quoi déjà la question?
Du coup, tu l'as un peu dit, parce que comme tu es journaliste et que tu manipules beaucoup la lecture, ma question c'était, est-ce que dans les compétences qu'on t'a aidé à acquérir dans tes études, tu continues de les utiliser aujourd'hui au travail?
Oui. Après, en plus, j'ai eu une formation après un master pro en journalisme, donc évidemment, tout ce que j'ai pu...
Alors par exemple, on reproche aux études de journalisme, mais on pourrait aussi les reprocher à des études théoriques comme les études théâtrales ou la fac de ciné, enfin tout ce qui est un peu universitaire, d'aborder les professions d'un point de vue théorique, mais pas d'un point de vue concret. Est-ce qu'en études de journalisme, par exemple, t'as appris à utiliser les logiciels ou à rédiger concrètement des articles ?
Oui, là c'était comme c'était un master pro, en fait, on avait la plupart de nos profs étaient journalistes. Et donc nous, on avait vraiment, enfin, on devait aller sur le terrain, on devait réaliser nos reportages. C'était un peu chaud d'ailleurs, mais ah oui. Et puis ce que je voulais dire, c'est que moi, mes études, je les ai pas vécues allant rue de Lap ou en sortant beaucoup. Enfin, moi, je me rappelle.
Non, mais faut pas sortir rue de Lap déjà. C'est une mauvaise idée.
Pour commencer.
La base.
Ou
rue de Mouffetard, ça va.
Oh.
Oui, ouais.
Aux touristes.
on a un peu
les
une
shots
image...
à 2 euros de la rue Mouffetard conviennent.
On a un peu une image des études où on peut sortir tout le temps, mais je trouve que c'est... Enfin, pour
non,
ma
si tu
part,
fais prépa, c'est clairement pas ça.
Ah oui, ouais. Non.
J'ai fait une prépa. Et puis après, à la fac aussi, j'ai jamais connu de semaine entière où je vadrouillais.
Et puis beaucoup de gens, dans le début de leur vie professionnelle, sortent tout de suite après le travail, en after work, et continuent de mener le même rythme de vie qu'on peut mener pendant les études.
Ou le découvre,
et en plus ont le budget pour, parce qu'un étudiant, il y a aussi ce problème que Maxime a pas mal abordé, sur j'ai envie d'être un adulte, d'avoir mes propres revenus. Et
le contrat doctoral, c'est ça, c'est permettre à des étudiants qui en ont chié pendant 5 ans à pas sortir, de pouvoir...
enfin financer...
enfin s'alcooliser, sans se ruiner.
Après oui, il y a des étudiants qui sont contraints de travailler à côté leurs études, ça veut dire les week-ends, ça veut dire toutes les vacances, et en même temps, pour des études qui sont théoriques, ça permet d'avoir une première approche du milieu professionnel. Ils vont faire un travail qui sera peut-être pas forcément en lien avec les études et avec la profession qu'ils vont avoir à la fin de leurs études, mais ça va leur permettre de savoir ce que c'est qu'un milieu professionnel. Mmh. Quels sont les même dans un boulot saisonnier, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des codes à avoir, des choses à faire, à ne pas faire, etc., qu'on n'acquiert pas en faisant des études, mais qu'on acquiert par une expérience professionnelle, ne serait-ce que de faire un CV, de faire des entretiens, tout ça, ça se prépare, d'écrire une lettre de candidature, de savoir qu'est-ce que tu mets, de ne pas commencer par parler de toi, mais de commencer par parler de la structure dans laquelle tu postules, enfin ce genre de choses.
Et ça fait une coupure aussi, surtout quand on fait quand on fait des études très théoriques, parce que du coup, moi, en biochimie, c'était hyper théorique. Et du coup, je bossais, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom ou pas.
Si.
IKEA. Donc, je bossais dans la restauration à IKEA. Donc, rien à voir avec mes études, vraiment. Mais du coup, ça me faisait une grosse coupure où je faisais vraiment quelque chose. Chaque jour, je faisais des choses, en fait. Ouais. J'accomplissais quelque chose. Alors qu'il n'y a pas de sentiment d'accomplissement quand on fait des études pendant 5 ans.
Quand on fiche des livres, c'est agréable d'aller servir des assiettes en restauration.
Ouais, ouais. Exactement. Enfin, franchement, moi, ça me faisait du bien, en fait, moralement, vu que je travaillais tellement pour mon master, vu que j'avais peur de ne pas avoir de job après. Donc, du coup, moi, ça me faisait vraiment une pause, en fait.
C'est justement une des choses qui, je pense, est le plus difficile dans le métier du doctorat, c'est l'inaccomplissement. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui dure 8 ans, enfin, qui dure 5 ans, 6 ans, mais entre-temps, on n'a rien, pas toujours quelque chose qui se matérialise physiquement. Et il n'y a pas longtemps, on devait faire un déménagement dans les locaux de mon labo. On devait déménager des livres, on était tous trop contents. Genre, un truc qui va commencer et qui va finir dans la même journée. On était trop contents.
Qui n'arrive jamais dans la recherche. Donc.
Exactement.
Alors la satisfaction du monde du travail, on en parle tout de suite après la pause.
Ils sont marrants, cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darman et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà déjà rentré. Vous savez pas ce que c'est que bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzé. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer. T'es 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bet et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat. Si jamais t'allais en prison, ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même client, me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 kirs. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est faite agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas le sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
Est-ce qu'on est vraiment en sécurité dans l'emploi? C'est les Fatal Picard qui essayaient de répondre avec le titre La sécurité de l'emploi à 19h38 sur Radio Campus Paris.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Et ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je m'attends, petite sœur.
Cette ravissante voix dans l'habillage de l'apéro vous dit que c'est reparti pour cette émission estivale. Ce soir au micro, les journalistes de Campus, les réalisateurs de Campus, les producteurs d'émissions de Campus parlent de leurs activités professionnelles à côté de Campus et on parlait aussi des études. Alors je rappelle autour de cette table Anna, Alex, Flore, Antonin et Maxime, merci encore d'être là. On parlait des études. Et on a rapidement abordé la place qu'on laissait au travail dans notre vie dans la première partie de l'émission. Est-ce que vous avez choisi vos études pour ce qu'elles allaient vous donner comme métier après, avec une vision précise de votre ambition salariale, du salaire que vous vouliez, de ce que vous vouliez faire de votre journée? Est-ce que vos études devaient vous amener à là dès le début de vos choix de vos études?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, déjà, mon métier, il n'existe pas dans les grilles théoriques. Je faisais dans la recherche, donc c'est hyper vaste et ça ne veut rien dire du tout. Moi, j'aimais bien les sciences. J'ai beaucoup regardé Grey's Anatomy quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, à un moment, je voulais faire médecin. Voilà, c'était pas clair, mais du coup, j'ai fait une première
année. Tu voulais faire médecin ou tu voulais passer du temps avec les personnages de Grey's Anatomy?
Ah, mais très clairement, passer du temps.
À 8 ans, à 11 ans, tout le monde, tout
là,
le monde a pensé à ça.
C'était plus tard, 15 ans, là. Ah oui, c'était Grey's Anatomy, donc ça a coïncidé avec ça. Et donc, du coup, j'ai fait une première année de médecine que j'ai ratée. Et ensuite, il y avait la fac de biochimie juste à côté. Du coup, je suis allée là. Et ça a duré 5 ans.
T'as sonné à la porte, t'as vu de la lumière, t'as rentré.
J'aime bien les sciences, donc voilà.
Moi, non, j'avais pas. Enfin, je suis allée en fac de droit puisque je savais pas exactement quoi faire, éventuellement passer les concours. Mais j'ai arrêté la fac pour faire du théâtre à la base. Puis après, je me suis dit que non, j'avais envie d'une sécurité de l'emploi, donc j'ai passé les concours et après j'ai, voilà, c'était en lien avec la fac de droit. Mais quand j'étais en fac, j'imaginais pas quel métier j'allais faire et quel niveau de salaire, etc. La seule chose que je sais, c'est que quand j'étais petit, je voulais travailler dans un bureau.
Ah, quand j'étais t'avais petit. Déjà donc une ouais. vision précise de
je sais pas quoi, mais je voyais un bureau.
De ce à quoi tu ressemblais.
Ouais, et c'est assez conforme à ce que je voulais quand j'étais petit.
Flore, est-ce que tu te voyais dans une... Pardon, sauf que...
Sauf que les bureaux sont modernisés par rapport à ce qu'imaginais quand j'étais petit.
Alors tu n'as pas de machine à écrire.
Non, j'ai pas de machine à écrire, les bureaux sont pas en bois.
Bah, moi ça s'explique plutôt dans une courbe un peu en oscillation. Bon, moi quand j'étais petit, je voulais être critique de jouets.
Je sais pas, c'est génial,
tu voulais
ça.
Tester critique de jouets.
Je voulais être critique de jouets, voilà. Je sais pas trop à quel moment j'ai cette idée, mais sans même... J'ai abandonné cette idée, après je voulais être critique gastronomique. Donc il y a quand même une idée persistante entre tout ça, voilà, la critique. Faut savoir que mes parents bossent dans la culture et du coup j'ai fait le parcours un peu évident, j'ai fait prépa, j'ai fait un master de philo et puis je suis partie à l'étranger et en revenant j'ai fait ma crise d'adolescence à 22 ans, j'ai fait un master de marketing et du coup j'ai fait des stages dans le marketing et c'était vraiment affreux et je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas dire merde à mes parents plus longtemps en fait, que... C'était pas possible, que je détestais toutes les tâches qu'on me donnait à faire, que je détestais l'hiérarchie, que je détestais la bureaucratie, que je détestais tout en fait, que je détestais le monde du travail capitaliste tel qu'il m'était présenté. Et du coup, j'ai fait ce que j'étais quand même un peu destinée à faire.
Une crise d'adolescence singulière. T'as dû t'opposer au monde de la culture pour aller vers le monde du marketing.
Et puis finalement, je me suis rendu compte que il y avait rien à faire, que ce monde de la culture allait me poursuivre quoi qu'il arrive, mais qu'il était trop tard pour devenir critique de jouets ou critique gastronomique. Et du coup, j'ai fait une thèse sur la critique d'art et voilà.
Et toi, Anna, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?
Quand j'étais petite, ouais, je ne suis pas du tout originale. Moi, je voulais être vétérinaire alors que je ne supporte pas la vision du sang. C'est
ni des chiens, d'ailleurs.
Ni des chiens. Je n'ai pas de chiens. J'ai une phobie des chiens.
Bon, c'est une forme de... Tu voulais être médecin, quoi.
Oui, mais c'est trop bizarre parce que... Enfin, en vrai, non, quoi. Jamais. Genre, ça n'aurait pas été un métier pour moi du tout. Enfin, je...
Trouver son métier, c'est un peu apprendre à se connaître.
Ouais, je pense. Enfin, pas je sais tant. Pas. Enfin, non, je pense
c'est
pas.
Surtout c'est trouver le moyen de remplir le frigo aussi.
C'est surtout ouais,
se dire, voilà, il faut payer le loyer, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui peut me permettre de payer le loyer.
Tu disais, Maxime, que tu avais arrêté le droit pour faire du théâtre. Est-ce que quand vous avez démarré votre vie salariale, vous avez renoncé à des passions de l'enfance qui vous plaisaient beaucoup?
Non, parce que moi, je cherchais un travail qui me laissait du temps à côté pour assouvir mes passions d'enfance. Ce que je fais aujourd'hui.
Ce qu'on fait tous un peu aujourd'hui à ce micro. Ouais. Oui.
Donc non, j'ai pas. Et puis après, quand on est enfant, on est très loin d'imaginer ce qu'est réellement le monde du travail. On est loin d'imaginer toutes les professions qui existent, même aujourd'hui. Alors ouais, quand on est petit, on veut être vétérinaire. On s'imagine qu'on voit un chat, qu'on lui fait un bisou et ça y est, il est guéri. Quoi. On n'imagine pas des fois qu'il faut ouvrir le chat, qu'il faut enlever le foie. Et qu'il faut, enfin voilà, il y a des choses aussi gore comme ça. Mais on est très loin d'imaginer en vrai tout ce que ça peut être. Et puis au-delà de ça, quand on est petit à l'école, on nous dit qu'il faut bien travailler, qu'il faut faire ses devoirs, etc. Et c'est comme ça qu'on aura des bonnes notes et qu'on ira à la classe suivante. Dans le monde du travail, ça n'a plus rien à voir. C'est pas il faut bien travailler pour être bien vu, etc. Faut comprendre comment ça fonctionne. Faut comprendre, faut parfois être un petit peu un peu perfide, faut un peu filouter, pour vraiment essayer d'arriver à nos fins. Il y a des espèces d'enjeux, des stratégies, etc., qu'il faut comprendre. Des fois, qu'on ne comprend pas toujours, et donc on avance, mais mal. Mais des fois, on les comprend, et puis on arrive à atteindre des sommets, si on a envie.
Moi, c'était hyper dur quand... parce que toutes mes études, je me suis dit, bon, c'est bon, allez, plus qu'un an, et je me suis dit, c'est bon, après, c'est fini. Après, j'ai plus d'emmerde, en fait. Après, c'est terminé. En fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, en fait.
Non, parce que on en parlait au début de l'émission. Toi, tu es en plein à 27-28 ans,
27,
au cœur d'une reconversion.
Ouais.
Est-ce que vous, autour de la table, vous avez pensé tout plaquer pour un autre travail? On est un peu jeune pour ça, mais pourquoi pas? Enfin, la preuve.
Si, souvent, oui.
Souvent?
Ouais, souvent. Quand je démarre un boulot et que je me rends compte que, ou alors quand forcément je démarre, mais quand il y a une période où ça va pas, pour X raisons, il y a forcément une remise en question derrière. Et la remise en question, elle peut aller jusqu'à, mais si ça se trouve, je suis pas fait pour ça, faut que je change complètement. Et là, c'est le vertige de la liberté, c'est l'ouverture de l'espace de tous les possibles, et c'est qu'est-ce que je peux faire et ouais, bien sûr, ça arrive.
T'as envisagé de renoncer à ta thèse, Flore ?
Alors, renoncer à ma thèse, non, mais je me suis souvent dit, comme en entendant en parler tout à l'heure, trouver du boulot après une thèse, c'est pas évident. Qu'est-ce que je fais si je trouve vraiment rien? Et du coup, là, se pose la question. Moi, j'ai pas trop le vertige des possibles, comme tu l'évoquais, Maxime, parce qu'il y a la question du temps. Et mine de rien, un jour, avoir un salaire un peu plus élevé que ce que touche maintenant, ce qui est quand même très peu, et je peux déjà difficilement remplir le frigo. Je peux le remplir, mais pas avec des légumes bio tous les jours, quoi. Du coup, j'aimerais bien un jour pouvoir le faire, un jour dans pas trop longtemps. Du coup, ce vertige des possibles-là, il n'est pas si étendu que ça, parce qu'il faudrait que ce soit rapide quand même. Si reconversion il y a, ça ne peut pas être encore 5 ans d'études pas rémunérées. Donc il faudrait que ce soit quelque chose de très rapide et concret et immédiat. Et quoi, ben ça, on verra. Hein.
On verra, on va prendre une pause le temps de voir tout ça.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Allez, attends, une fois, bande de feignants, là.
De cette émission Le Travail, c'est la santé d'Henri Salvador à 19h49.
Tu prendrais pas une bière?
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9. L'apéro de ce soir s'interroge sur qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que le travail après les études, comment on envisage ce passage. Mais avant de continuer ce débat, je suis obligée de me tourner vers Antonin, de m'excuser de ne pas t'avoir donné le micro et de te demander à ton tour, Antonin, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grand?
Je voulais faire dessinateur de BD.
Ah, mais alors tu as continué à dessiner la BD en
plus. Oui, mais j'ai jamais terminé une seule BD, j'ai jamais eu... J'ai toujours fait 10 pages et puis après ça m'a saoulé, c'est pour ça que j'ai pas fait ce métier finalement. Mais après.
Mais la vie est longue, hein.
Après, oui, mais. Ah bon? Ah, bah c'est. Merde. Non, mais du coup, je me disais. Le truc, c'est qu'après, je me suis renseigné comment ça se passait. J'ai vu qu'en fait, tu travaillais souvent dans des éditions, que tu avais des contraintes, qu'il fallait rendre une planche à un jour donné, etc. Alors quand moi, je vois que je galère pendant une semaine sur un dessin de visage et que je me dis, putain, j'arrive pas, machin, je fais, bah. même avec des études et tout, ma patience n'aurait pas été suffisante, on va dire.
On a évoqué en début d'émission le passage, enfin la considération dans le travail comme être des adultes et le fait que les différences d'âge s'effacent un peu entre collègues et toutes ces petites choses-là. Est-ce que ça, enfin, est-ce que vous entendez bien avec vos collègues ? Est-ce que ça vous a plu d'avoir ce contact avec de nouvelles personnes qu'on rencontre pas dans les études ?
Pas toujours, mais c'est vrai que c'est assez rigolo de voir quand tu commences à travailler que ouais, là, t'étais, avant t'es avec des gens qui ont ton âge globalement et là après tes potes c'est des gens qui ont l'âge de tes parents et ça fait, au début ça fait bizarre et de voir que, bah, que t'as des discussions bon, qui sont pas forcément des discussions de potes, ça reste des discussions de collègues de travail mais qui sont pas, qui a, avec, pas la même retenue que tu as quand t'as une discussion avec tes parents. Et de voir que, ça, que tu peux t'entendre même avec des gens qui ont 20 ans de plus que toi, par rapport à des gens qui ont ton âge mais qui font le même travail que toi, c'est assez rigolo à voir. Ouais.
Mais moi j'aime bien le côté, enfin, pas toujours non plus, je m'entends pas toujours, mais j'aime bien ce côté sociabilité du travail. Je trouve que c'est peut-être une des choses les plus intéressantes dans le travail. Parce que je me souviens, juste après mes études, j'avais fait un travail où je devais travailler toute seule chez moi et tout ça. Et en fait, ça m'avait trop manqué de ne pas voir des gens. Et après, j'ai été agent d'accueil. Et là, j'étais trop contente parce que j'avais des collègues avec qui parler. Et ça m'avait manqué, en fait, ce rapport humain.
Ouais, c'est vrai.
Justement, ça, c'est une dimension. Je trouve quand des jeunes étudiants en licence, en master me disent « Est-ce que le doctorat, c'est pas être tout seul tout le temps ?» C'est un grand critère d'angoisse et de doute sur « Est-ce que je vais faire un doctorat ?» En fait, c'est un mythe total que le doctorant est seul. Évidemment qu'on est toujours seul face à son objet de recherche, mais il y a énormément de lieux et de moments de sociabilité dans la vie d'un doctorant. Déjà dans les locaux de l'université, dans
les
laboratoires.
On a parlé de la rue Mouffetard déjà suffisamment.
Dans la bibliothèque, dans plein d'endroits. Mais en fait, je trouve qu'il est difficile. C'est que du coup, on va avoir des collègues qu'on va voir, avec qui on va échanger, avec qui on va dire « Ah bah, comment t'arrives à gérer la page blanche ?» Comment t'arrives à gérer le ras-le-bol? Quand t'as envie de tout arrêter ta thèse, qu'est-ce que tu fais? Mais le truc, c'est que ces collègues-là, du jour au lendemain, ils peuvent devenir des compétiteurs. Parce qu'on va être en compétition pour un même poste, pour une même charge d'enseignement, pour un même poste de maître de conférence. Et ça, c'est très dur à gérer. Parce qu'on est vraiment dans des liens, soit de collégialité tout à fait cordiale, soit de véritables amitiés. Et quoi qu'il en soit, bah, on arrive à un moment où on va être en compétition et c'est pas facile à gérer ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle sociabilité qu'on ne connaissait pas avant. Parce que c'est la sociabilité des gens avec qui on travaille. Alors, il y a une sociabilité obligée, un peu relou, avec, bah, qui est ponctuée par tous les « ça va ?»« Bah oui, on est vendredi.
Ah, vivement bientôt vendredi. » »« Bientôt le week-end.
Ah, » on a dit « Ah, ça
il
va ?»« Bah oui, bah,
faut
bien. » Enfin voilà, il y a toute cette tartine-là qui est pénible. Après, il y a les rencontres professionnelles et les coups de foudre professionnels et des personnes avec qui on aime travailler, avec qui on a plaisir à travailler, qui nous apprennent des choses, avec qui on se sent grandir. Avec qui on a aimé partager des choses sur des situations difficiles au boulot, etc. Et en même temps, ces personnes, en dehors du travail, on n'a pas de points communs. C'est assez rigolo de voir qu'il y a cette nouvelle sociabilité-là. Au-delà de ça, ça reste des collègues, mais c'est des personnes avec qui on aime travailler, avec qui on a plaisir. On n'est pas amis dehors, mais on aime travailler avec eux. Et à l'inverse, tu te rends compte aussi des fois que tu ne peux pas travailler avec tes amis. Oui. Enfin, qu'on peut travailler avec quelqu'un, c'est... Enfin, pas toujours. Travailler avec quelqu'un, c'est compliqué. C'est pas forcément donné... Enfin, tu peux pas le faire avec tes amis.
Antonin, je te voyais acquiescer à la fois sur les exemples de compétition dont pouvait témoigner Flore et à la fois sur les rencontres professionnelles sur lesquelles on apprend. Quel rapport t'entretiens avec tes collègues ? Est-ce que ça t'a fait grandir ?
Alors déjà, je suis complètement d'accord avec Maxime, c'est que des fois, c'est même éclairé quelque chose dans mon esprit, c'est que ouais, il y a des gens avec qui tu travailles super bien, t'as des bons rapports au boulot, tu t'entends super bien, mais de l'autre côté, à l'extérieur, bah il y a plus rien à dire. Oui, on peut parler de travail si tu veux, mais enfin voilà, y a pas autre chose. Ben non, on essaye, mais on n'y arrive pas. Et bon, j'entretiens une relation assez particulière avec mes collègues, c'est que je sais pas, en ce moment c'est un peu compliqué. Mais sinon, il y a des moments où c'est bien, d'autres moments où tu sais pas trop, t'es un peu hors de l'équipe. Je sais qu'en ce moment, je suis un peu en dehors de l'équipe parce que bon, c'est l'été, ils se lâchent un peu. Ils sont un peu, ils se laissent parler, quoi, on va dire. Et bon. Des fois, je vais dire, bon, c'est bien marrant, les gars, mais on va bosser, quoi.
C'est pas possible de toujours les écouter. Alex, est-ce que pour toi, c'est possible de bosser dans une mauvaise ambiance de travail avec des...
Enfin, oui. Moi, non.
Déjà ici ça se passe très très mal.
Difficile de dire le contraire.
Très très quand mal.
Tu te demandes ce que tu fous là à chaque instant.
Exact, à chaque instant. Là déjà je sais pas ce que je fous là. Non, je peux pas bosser avec avec des gens avec qui je m'entends pas un peu. Et moi j'ai du mal à bosser avec des gens avec qui je pourrais pas m'entendre en dehors en fait. J'ai besoin d'avoir vraiment un lien avec les gens pour pouvoir vraiment avancer en fait, sans être forcément meilleur ami et sortir tout le temps, mais juste quelque chose en commun quand même.
Anna. Ah, Anna, tu me l'as déjà évoqué. Je voulais aussi, en fait, je voulais aborder aussi ce sujet pour évoquer la souffrance que parfois on ressent au travail. Alors, ça peut être une souffrance interpersonnelle, mais aussi parce que, enfin, on parle beaucoup dans les médias du burn-out ou des travails trop ennuyeux, enfin, des jobs de merde. Et en tant qu'étudiant, on en a vu pas mal passer des jobs de merde. Est-ce que vous avez connu des situations de souffrance au travail qui, du coup, ont eu des implications sur votre vie personnelle ?
Moi, oui. C'est pour ça que je suis partie.
Moi aussi.
Moi aussi.
En fait, l'adaptation... Enfin, j'ai l'impression que l'adaptation au travail, pour beaucoup, beaucoup de monde, parce qu'on est jeune et déjà, on a connu des situations dérangeantes qui nous font souffrir.
Bah, c'est, ce qui est affreux aussi, c'est la répercussion que ça va avoir sur ta vie personnelle, sur ta santé, est proportionnelle à l'implication que tu mets dans ton travail. Et ça, tu t'en rends compte au moment où tu souffres parce que quelque chose se passe mal dans ton travail. Ah. Et même des personnes qui vont dire « Oh, moi, le travail, je m'en fous, je viens juste là, je fais mes 7 heures et puis après, je m'en vais. » En réalité, non, tu te rends compte qu'il y a quand même... Je pense que tout le monde a une conscience professionnelle et qui est hypersensible quand il y a quelque chose qui se passe mal, puisque ça a des répercussions sur la santé et jusque des situations dramatiques comme ce qui s'est passé entre autres à France Télécom.
Mmh. Oui, justement, c'est cette notion justement de l'épanouissement dans le travail, elle est hyper importante et elle est, je pense, pas assez pensée dans la société. Il y a un gros impensé sur justement le travail ennuyeux, le travail peu qualifié, etc. Et tu évoques France Télécom. En fait, il y a un livre qui a été écrit sur les sites de France Télécom d'un philosophe qui s'appelle Axel Honneth et ce bouquin s'appelle La lutte pour la reconnaissance. Et je pense que cette notion de reconnaissance, elle est vraiment clé dans le travail. Ça veut dire, en fait, que tu fasses un travail difficile, lourd, pénible, tant qu'il y a une reconnaissance, que cette reconnaissance, elle se fasse par le salaire. La première reconnaissance, elle vient par le salaire, mais ça peut aussi être une reconnaissance par une valorisation symbolique. En ce qui me concerne, par exemple, à l'université, on est très mal payé, mais la reconnaissance, elle se fait par les étudiants, elle se fait par le réseau d'interconnaissance, elle se fait parce qu'un collègue va dire « il était génial ton article, blablabla ». C'est ça la reconnaissance, et en fait, je pense que c'est un des gros problèmes du monde du travail actuel, c'est le manque de reconnaissance.
Alors, rater le travail, ce n'est pas rater sa vie. On ne connaissait pas et on n'avait pas la reconnaissance aussi détaillée les uns des autres de la réalité de nos travails des uns et des autres. Et cet apéro nous aura permis d'en apprendre beaucoup plus. Merci Anna, Alex, Flore, Antonin et Maxime de m'avoir accompagné au micro ce soir. Je dis coucou à l'autre côté du micro. Salut.
Salut à tous.
Ce soir, c'est Thelma et Louise. De quoi vous allez nous parler ?
On va parler d'écologie et de féminisme. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un mot qui existe et un mouvement qui existe pour rassembler tout ça. C'est l'écoféminisme.
L'écoféminisme, ouais, c'est pas mal à la mode ces derniers mois. On en saura plus tout de suite sur Radio Campus Paris. Dans l'apéro, on en a profité pour évoquer nos ambitions ratées. Mais comme l'a rappelé Anna lors de la préparation de cette émission, Amélie Poulain nous apprend que rater sa vie est un droit inaliénable. Profitez bien tous de ce droit. À la réalisation ce soir, c'était Philippe. C'était Philippe. Merci à Philippe et à Alex de m'avoir aidé à préparer cette émission et bonne soirée à tous.